La République, c'est ici.
Mais on est bien placé pour parler de République, là. Je pense que l'amphi est situé donc juste à côté. On la traverse pour entrer, on traverse les restes de la salle capitulaire. Alors, ça devrait nous inspirer. Mais sur la République, je suis pas sûr, mais bon. Oui, donc je commence par une citation, comme on peut dire. Vaste sujet. Écologie et République. Oui, alors ça... Est-ce que c'est antinomique? Bon. Surtout en France, peut-être, quand on parle de République, on a tout de suite un mot qui vient à l'esprit, c'est l'universalisme. Alors évidemment, universalisme de la République, de la Troisième République, les colonies, etc. La bonne parole républicaine apportée au monde entier. La République maintenant indivisible, une et indivisible depuis la Révolution, auquel on a ajouté laïque, démocratique et sociale. Bon, on fait quoi avec ça en écologie? Est-ce qu'il peut y avoir une République écologique? On conçoit effectivement difficilement que l'écologie ne soit pas républicaine, mais au sens où elle ne va pas être monarchique ou je ne sais quoi d'autre. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une république écologique? Alors, j'ai dit que le premier mot qui me venait à l'esprit, au vôtre, je ne sais pas, c'était cette notion d'universalisme. Ben, peut-être que ça tombe bien pour nous, ça. Parce que l'universalisme républicain, qui a, à une époque donnée, a servi ce dont je vous parlais juste à l'instant, dans le domaine de l'écologie, ben c'est peut-être aussi l'universalisme tel qu'il est repensé par le concept de Gaïa. Bon, je vais faire aussi ma petite référence à Bruno Latour, comme tout le monde. Mais voilà... C'est bien, je trouve. C'est-à-dire que Gaïa, tout interagit, tout est dans tout, tout interagit avec tout sur la totalité de la Terre. Et donc ça, c'est bien une forme d'universalisme. Donc comment traduire l'universalisme républicain en ces termes-là? Pour moi, c'est comme ça qu'on peut aborder peut-être la question de la République écologique. Alors, je crois que dans un premier temps, Claire Monod va nous... Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça ou pas, mais en tout cas, tu vas nous aborder certains aspects un peu théoriques sur le sujet. Et puis, Lisa, on dit Belluco, comment on le prononce? À la française, Belluco, qui est au chômage en ce moment à cause du 49-3. Donc député écologiste de la région de Poitiers, nous parlera aussi du même sujet, mais à travers l'approche plus pratique que tu peux en avoir, et notamment à travers cette nouvelle fonction. Donc voilà, pour l'introduction, je ne suis pas plus long et je passe la parole à Claire.
Et un grand merci à François, parce que, comme vous l'avez vu, il a accepté sur le programme... Il ne figurait pas et donc il a accepté avec plaisir d'introduire et d'animer notre table ronde. Donc merci beaucoup François.
Mais pour l'animation, attention, ça ne sera pas compliqué hein, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il paraît qu'on manque de paracétamol en ce moment. Alors il ne faudrait pas qu'on se prenne trop la tête et qu'on sorte avec un mal de tête, on ne saurait pas comment s'en débarrasser.
Alors comme vous voyez, je l'ai autorisé à me couper la parole donc... Je pense qu'il va en user et en abuser, c'est très bien, parce que vaste sujet, effectivement, qui mérite à la fois du sérieux, de la profondeur, et aussi, de temps en temps, cet aller-retour entre le conceptuel et le pratique. C'est un peu la dynamique de notre intervention aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'a construite en tout cas. Et donc, pourquoi on a proposé ici de tenir cette table ronde écologie et république, c'est pour contribuer à ces rencontres, mais compléter un peu le panel d'intervention qui est davantage consacré aux idées par un point de vue donc un peu singulier, à la fois philosophique, bien sûr, à la fois politique, bien sûr, et un petit peu institutionnel aussi. Alors, ni François, ni Lisa, ni moi ne sommes juristes ni constitutionnalistes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et donc, ça ne sera pas une entrée juridique ni constitutionnaliste comme il y en a eu. Alors, par contre, il y a ici, alors dans cette salle, je n'ai pas encore vu, mais beaucoup d'intervenants qui participent à ces journées, qui sont des d'éminentes personnalités qui se sont déjà frottées à ce sujet. Et il y a plusieurs années. Donc, notre contribution s'appuie bien sûr sur la richesse de leurs travaux. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, nous, en fait, on considère qu'on reprend un peu le flambeau dans l'actualité politique du moment, parce qu'il y a plus que jamais, en fait, urgence pour constituer un cadre de travail. C'était aussi la commande de Jacques Archimbaud de dire « Posons les bases d'un cadre de travail qui nous permette d'avancer sur le fond, en écologie. » Et donc, c'est pour aller plus vite et c'est pour mettre en perspective notre approche. Il y en a, disons, deux axes que je vais mettre en avant aujourd'hui. D'une part, la nécessité donc, pour l'écologie de progresser, pour l'écologie politique de rechercher le pouvoir, et de fonder ses propres outils pour agir. C'est-à-dire, comme le dit Bruno Latour, excusez-nous, je pense qu'à la fin, quand on en sera à la 25e citation, vous aurez compris qu'on est relativement fan de sa pensée, et que, par ailleurs, et j'y viendrai après, mais on en profite pour lui rendre aussi hommage, bien sûr, il rappelait l'an dernier encore qu'il y a une difficulté particulière, qui est celle de ce qu'il appelle la classe écologique, comme vous le savez, qui doit modifier son périmètre pour que l'appareil d'État qu'elle veut occuper définisse autrement ses fonctions, son mode d'action, aussi bien que la forme des territoires sur lesquels il exercera son pouvoir. Alors, en un mot, pour vous mettre dans le bain suite à ce que vient de dire François, à l'instar des républicains de la première heure qui la conçurent comme l'expression de leur projet d'émancipation, d'abord démocratique, comme vous savez, puis sociale. L'écologie politique, aujourd'hui, a besoin de concevoir ce cadre, ce régime, cette constitution, qui lui garantisse la mise en œuvre de réponses adaptées aux besoins du monde actuel et évidemment au maintien de son habitabilité face aux multiples effondrements et notamment au respect des limites planétaires. La République écologique, c'est l'expression de ce projet de société. En tout cas, c'est ce que nous cherchons à construire. L'autre axe, c'est la nécessité d'inscrire l'émergence d'une république écologique dans une démarche de rassemblement, en l'ancrant dans plusieurs histoires simultanément. Celles qui ont constitué des avancées pour l'humanité et l'organisation de nos sociétés précédemment lui servent aujourd'hui d'assises tout en lui permettant de trouver sa propre définition, comme le disait Bruno Latour, qui englobe le vivant au-delà de l'humain. François parlait de l'universalisme, c'est bien autour de cette question qu'on va tourner. Et donc, sur ce point, c'est aussi l'immense érudition d'un Serge Audier qui nous inspire quand il rappelle que nous, donc les Français, disposons d'un patrimoine théorique et pratique qui, depuis l'Antiquité, n'a cessé de chercher les voies d'un bien commun et d'un pouvoir de tous, républicanisme, solidarisme et socialisme. Nous questionnerons donc avec lui le passé pour mieux construire l'avenir et nous respectons la façon dont il présente cet axe d'un point de vue à la fois théorique et pratique qui sont évidemment complémentaires. Alors, un petit mot juste pour vous dire que cette démarche, elle est issue notamment d'un travail collectif que nous avons entrepris depuis 2020 avec l'association Convention pour une République écologique, qui a été fondée en 2016 par Cécile Duflot, qui est restée quelques années inactive et que nous reprenons depuis 2 ans. Nous publions aujourd'hui le 3e numéro de la revue Propos, consacrée au rapport entre écologie et pouvoir. Vous la trouverez à la librairie, voilà. Et évidemment, c'est pour nous l'occasion, comme je vous le disais tout à l'heure, de rendre un hommage à Bruno Latour qui avait accepté d'en signer l'introduction. Voilà, donc je ne vais pas représenter Lisa, notre chère députée de la Vienne, mais qui est aussi conseillère municipale de Poitiers pour ELV. Et nous allons rentrer dans ce cadre donc, entre la théorie et la pratique pour la constitution de ce cadre de travail sur la base des nombreuses controverses au sein de la grande famille de l'écologie. Je pense que ce n'est pas inintéressant, comme posait la question François à l'instant, de dire est-ce que ça choque quand on parle de république écologique? Qu'est-ce que ça a créé comme débat au sein de l'écologie politique? Voilà, je dirais que je vais lui passer la parole après avoir tenté de poser les termes d'une question, peut-être un petit peu malicieuse, et je dirais, mais la République, c'est qui, en fait? On va voir si on arrive à y répondre, ou peut-être Lisa y arrivera. Alors, évidemment, comme je vous le disais, c'est pas tout à fait spontané d'associer les deux concepts et d'accoler le terme République et écologie. En tout cas, la paire n'est pas évidente pour tout le monde. Que ce soit l'histoire, les représentations symboliques ou les modes d'action, rien, a priori, ne semble coller. Serge Audier disait d'ailleurs « Parler de république pour concevoir une philosophie et un projet écologiste reste une gageure. » Alors, lui, il y parvient plutôt très bien, en tout cas, c'est mon point de vue. Au sein du mouvement de l'écologie politique, c'est plus compliqué. On pourrait dire qu'il y a globalement quatre étapes que je vais vous présenter pour comprendre un peu comment se consolide ce concept. Alors, pour la génération libertaire, issue de mai 68, face à un État gaulliste, la République, c'était alors l'État contre la société, la République coloniale, l'écrasement des cultures régionales et accessoirement les massacres de la Commune. On en choisit quelques-uns, il y en a d'autres. Cécile Duflo prédisait en 2017 que, cette époque-là est révolue. Alors, bon, 12 ans plus tard, on peut dire que la formule était un peu avant-gardiste et un brin optimiste. Néanmoins, on va voir comment ça avance. Alors évidemment, pourquoi l'époque n'est pas révolue? Il faut voir que la méfiance des uns, idéologiquement par rapport à la République, elle est aussi alimentée par le mépris des autres dans le contexte politique. Les autoproclamés républicains, qui sont restés totalement aveugles aux enjeux environnementaux, postcoloniaux, territoriaux, patriarcaux, je continue, uniformisateurs, et plus largement, évidemment, toute la question du rapport de domination, mais qui s'autorisent toujours, et encore dernièrement, et Lisa pourra vous en parler, à excommunier les impies que nous sommes sur ces sujets. Nous ne sommes pas forcément attendus dans ces sphères politiques il y a comme une protection qui s'exerce autour de ce mot que nous voudrions lever. Bref, cette guerre de tranchées qui s'est fossilisée, mais dont le spectre n'a fait que s'élargir depuis les années 80, on l'a vu, à la droite classique, bien sûr, républicaine, ok, mais jusqu'à l'extrême droite, qui se revendique elle-même maintenant républicaine, et une partie de la gauche aussi, à sa façon. Du point de vue de l'écologie politique, nous pensons que cette manipulation de la République par une élite bourgeoise, souvent blanche et patriotique, génère de l'exclusion à rebours des principes fondateurs de la République et qu'elle est largement susceptible d'être dépassée. Et tout l'enjeu de ce qu'on va évoquer là, c'est cette forme de dépassement de cette fossilisation des idéologies politiques autour de ce sujet. Par contre, pour ceux qui sont installés dans ces schémas de domination, les conservateurs de tout poil, dans le déni ou la croyance en un miracle techniciste, là, j'avoue, pour eux, je ne pourrais rien faire. Ce que l'on voulait commencer à dire comme introduction dans le vif du sujet, d'abord, de rappeler, c'est que d'abord et avant tout, la République n'appartient à personne. C'est important de se le redire parce qu'il y a eu des opérations de captage qu'il faut démonter. Elle n'appartient à personne parce qu'elle est fondamentalement, intrinsèquement, la chose de toutes et tous, pour toutes et tous. Voilà. Alors, la réflexion que nous poursuivons consiste en fait à s'en réapproprier le potentiel, à la fois philosophique et politique, et d'envisager l'accroissement de ces possibles, et vous allez voir en quoi l'écologie, j'espère que vous allez le comprendre, l'écologie, en fait, permet à la République une extension de son domaine de la lutte, c'est comme ça qu'on dit. L'écologie permet le renouvellement de la République, et ces extensions, en fait, permettent de dépasser, en tout cas c'est notre objectif, la vision anthropocentrée pour ouvrir les champs d'une approche éco-centrée, c'est-à-dire de relever, et on va le voir assez rapidement, les compatibilités, les affinités avec la pensée de l'écologie. Et il y en a. Alors, si on regarde de plus près, et en allant vite, François connaît encore mieux que moi les fondamentaux, on va dire, antiques, mais si l'on regarde de plus près les fondements de la République, je vais d'Aristote à Rousseau en passant par Rome. Les fondements entrent aisément en résonance philosophiquement, en fait, entre écologie et république, en poursuivant la notion de bien commun avec l'écologie comme horizon étendu. À la question du vivant, prônant la coopération et l'interdépendance entre les humains, au départ, par extension avec la nature, comme valeur. Également, renouer avec une certaine idée républicaine porteuse d'égalité, de solidarité et de démocratie, est à même d'accomplir, en fait, le projet de l'écologie politique. Une façon d'envisager un système comprenant l'extension du contrat social au-delà de nous-mêmes, les humains. Le principe fondamental d'égalité des droits permet, en gravant dans le marbre la notion de limite, envers autrui d'abord, historiquement, puis envers les milieux naturels, aujourd'hui. Encore une extension d'aller vers les droits de la nature. Et donc, sur ces fondements-là, et je passe très vite, on voit comment il y a des extensions possibles aujourd'hui dans l'appréhension de la question républicaine. Ce qui fait dire à Claire Lejeune, que certains d'entre vous connaissent, j'en suis sûre, elle écrit « La République est une forme politique écologiste en puissance ». Alors, évidemment, quand on dit ça, la démarche peut paraître un peu immodeste. Excusez-nous si c'est comme ça que vous le ressentez, mais ne vous laissez pas, illusionner. Notre démarche est très humble par rapport à l'ampleur de cette question. Mais nous disons qu'en revenant aux sources, en fait, elle est porteuse d'une partie de la révolution ontologique nécessaire à la conversion du monde occidental, en fait. C'est pas un petit sujet, ça va pas se faire en quelques mois ni quelques années. L'idée, en fait, c'est de redonner du sens, de rendre lisible culturellement un continuum historique et ses repères, d'en formuler les étapes, et ça c'est important, pour en permettre l'appropriation par le plus grand nombre, parce que la bataille culturelle, en fait, elle passe par là, nécessairement. Donc on y contribue, et c'est ça notre humilité, c'est simplement d'en faire partie. Alors l'écologie se place dans le prolongement des combats pour l'émancipation. De quelle émancipation parle-t-on ? en tout état de cause, à la suite des socialistes qui, face à la révolution industrielle, par la voix de Jaurès, proclamèrent « La République politique doit aboutir à la politique sociale ». Nous proposons, face à la crise globale du productivisme et l'effondrement, que la République politique doit aboutir à la République écologique pour porter les réponses de son temps. Alors, nous ne sommes pas les premiers, les premières, à travailler sur ce sujet. Et je dirais que les tentatives de réappropriation de la République par l'écologie politique constituent déjà en soi une histoire courte, mais dont on peut rappeler les enjeux et les controverses. Les grandes étapes de l'avancement de la réflexion se jouent un peu tous les 8-10 ans. Ça revient sur le tapis de l'écologie. Alors, je vais essayer là de vous donner quelques repères de la chronologie, de la généalogie dans laquelle nous nous situons et de sa diversité et surtout de l'évolution des façons de l'aborder par période selon évidemment l'état de la société dans laquelle ça se passe. Or, là, je parle de quelques dizaines d'années. Donc, normalement, ça devrait vous parler à peu près à tous. Je ne vais pas remonter très, très loin. Je dirais qu'elle démarre au tournant du siècle, en fait. Après que ce soit beaucoup rétréci, le recours à la République comme concept identitaire à gauche face à la construction européenne dans le contexte post-soviétique. Ça vous situe à peu près le démarrage. Mais cette question du concept identitaire à gauche, l'artisan de cet épisode, celui qui a théorisé et mis en œuvre au sein de la SFI, au puits du PS, ce hold-up politique sur la République, parce que c'est bien de ça dont on parle, il est bien connu, je pense que vous le devinez dans mes propos, mais après l'élection de François Mitterrand, c'est Jean-Pierre Chevènement, évidemment, qui explique lui-même, et je le cite, le rôle du CRS comme d'un cheval de Troie face à l'étiolement de l'Union de la gauche, dont le paradigme va être remplacé progressivement par celui de l'Union européenne. Alors, il pensait jusqu'à sa candidature à la présidentielle en 2002, il pensait, ça c'est une citation, « reconstruire quelque chose de solide à gauche, en fait, par-delà la gauche et la droite », là ça peut peut-être rappeler à des souvenirs plus récents, « le projet de refondation républicaine de la France pour la reconquête de la souveraineté », et ça évidemment c'est très important dans sa vision. Il parlait de souveraineté monétaire, sanitaire, industrielle, agricole, énergétique, etc. Énergétique. Et il véhiculait par allemand l'idée selon laquelle, et alors c'est là aussi où les controverses sont importantes, écoutez bien ce qu'il disait, l'écologie n'est pas l'utopie du progrès, c'est l'heuristique de la peur, quelque chose qui est très opposé à ce qu'est la démarche rationaliste qui traditionnellement était celle de la gauche. Donc, comme Régis Debray, il fait partie des autoproclamés républicains pour qui l'écologie, ou l'écologiste, est un ennemi. Il faut quand même voir qu'on part de là. Alors évidemment, c'est au moment de la gauche plurielle, on est dans ces années-là, et du gouvernement Jospin, dont le Che, donc notre camarade Chevènement, est ministre de l'Intérieur, que sort en librairie, en fait, ce qui va nous servir un peu d'ancrage historique et idéologique, en guise de réponse politique à cette ambiance-là, le livre de Noël Mamère, député de la Gironde, et Patrick Farbiaz, intitulé « Ma République ». Je vous le conseille, il est excellent et il n'a pas pris une ride, enfin, pas trop. Sur le fond, non, mais je veux dire, il a pris quelques rides... Ah, Noël non plus, il n'a pas pris une ride. Alors ça, je ne vois vraiment pas pourquoi vous dites ça. Donc, c'est leur contribution contre ce qu'ils qualifient, alors là, on passe les noms d'oiseaux, mais de nationalisme de gauche, qu'ils accusent de porter le tout sécuritaire, on est en 99, hein, une nostalgie idéologique de l'empire colonial français où l'État est organisé sous la forme d'une monarchie républicaine commandée par une élite. Voilà, j'ai juste pris une seule phrase, hein. Vous imaginez le bouquin. Franchement, si vous le trouvez, lisez-le, il est super. Alors, ce qui est fondamental, c'est qu'il propose après cette dénonciation, que j'estime salutaire, en tout cas à ce moment-là, même si elle n'a pas fait grand bruit au sein de la communauté écologiste, il éclaire la dérive idéologique au cœur de la gauche et pour la première fois depuis longtemps, une toute autre vision de la République, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de fusiller le camarade Che, mais il porte, à mon avis, pour la première fois de façon aussi explicite, une vraie vision pour ce que lui verrait dans cette République, qu'il n'appelle pas encore écologique. Alors, elle lui est pour lui solidaire et européenne, bien sûr, donc vous voyez à qui il s'adresse, et adossée à ce qu'il définit déjà comme une écologie citoyenne et populaire. Ça, c'est juste un petit clin d'œil. Alors, il dit, il est temps de réconcilier l'homme et la nature. C'est ce défi qu'attend l'homme du 21e siècle. Et la République, point d'exclamation. Elle a pris en compte les questions d'égalité des citoyens devant la loi au 18e siècle, de l'éducation et de la religion au 19e siècle, des droits sociaux au 20e siècle. Elle doit prendre à bras-le-corps la défense de la planète et faire du rapport à l'homme, pardon, du rapport de l'homme à son environnement, l'enjeu du 21e siècle. Là où est la civilisation, là où se trouve l'humain, là est la République. Voilà. 1999, Noël Mamère, vous pourrez le féliciter si vous le croisez. Ce que je pense par rapport à notre histoire, c'est que la brèche républicaine est ouverte à ce moment-là au cœur de l'écologie politique. Et parallèlement, elle va se réouvrir au sein de la gauche social-démocrate. Parce que là, pour le coup, c'est une histoire bien plus ancienne. La conscience de la nécessité de reformuler le projet républicain va atteindre un jeune avocat, cadre du Parti socialiste, qui met en avant le déficit démocratique de la Ve République et fonde en 2001, là aussi je pense que vous avez deviné, la Convention pour la Sixième République, la C6R. Arnaud Montebourg, pour ne pas le citer, associé alors à Paul Alliès et Bastien François, dont la conviction est forte et pragmatique. Ils veulent écrire une nouvelle constitution de part en part qui soit immédiatement adoptable. On est en 2001, c'est la fin du gouvernement Jospin. Il s'agit bien évidemment d'être réélu en 2002. Et donc, ils veulent quelque chose qui soit immédiatement adoptable et qui ne change que ce qui doit l'être dans la Constitution. La création de cette convention va générer un débat qui va durer longtemps, qui est aussi l'occasion de dresser un bilan sévère de la Ve République, dont les acquis, et ça m'a interpellée, les acquis. Et alors, il faut bien voir que Arnaud, Paul Alliès et Bastien François sont tous de formation juridique. Bastien, par ailleurs, est constitutionnaliste. Et donc, il tire comme acquis de la Ve République le fait majoritaire. Alors, je pense que Lisa pourra vous en parler, mais le fait majoritaire de la Ve République, il y a quelque chose qui a dû nous échapper il y a quelques mois. Donc, ce fait majoritaire de la Ve République, qu'ils mettent en avant à ce moment-là, est censé avoir mis fin, évidemment, au régime des partis de la IVe République et valoriser le présidentialisme. Cette période va donner lieu à des débats entre constitutionnalistes et la publication de nombreux ouvrages. Bastien François va ensuite intégrer l'écologie politique. Alors, c'est en 2011, on avance un peu dans le temps, que l'équipe constituée autour de Dominique Bourg, et donc il devrait être là, en tout cas je le salue si je ne l'ai pas encore fait, dont Bastien François fait partie de son équipe, va prendre corps pour avancer sur le concept, là pour la première fois, énoncé comme tel, de République écologique. Il va donner ce titre à son ouvrage collectif en introduisant une autre préoccupation environnementale. Ils sont partis de la question, on va dire, démocratique. Et là, ils introduisent une nouvelle partie dans la préoccupation environnementale, dans l'art de gouverner, à savoir le temps long. Deuxième étape, l'introduction du temps long, par opposition à la frénésie, évidemment, de l'immédiateté et ses conséquences délétères. Le travail est extrêmement sérieux, bien sûr, ambitieux, juridique et constitutionnel aussi, pris sous l'angle du droit, et donc va constituer une étape importante. dans la foulée, va alors le combat va alors se concentrer dans les sphères militantes autour de la modification possible de l'article 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce combat. L'article 1 de la Constitution, afin d'ajouter, et François le rappelait tout à l'heure, donc que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, il s'agissait alors de rajouter « et écologique ». Je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé à cette mobilisation, mais c'était un vrai sujet. L'association fondée par Marie Toussaint, qui était là tout à l'heure et que je ne vois pas là, mais que je salue aussi, qui s'appelle Notre Constitution écologique, va se retrouver au corps de ce qui va devenir en fait Notre Affaire à tous et le procès intenté à l'État pour inaction climatique avec cette fameuse pétition signée par 2,5 millions de personnes dans le monde et le soutien de nombreuses personnalités de la culture. Une nouvelle étape est encore franchie, faisant du droit un outil de mobilisation citoyenne écologique. Et donc, suite à la décision du tribunal administratif, le gouvernement, je vous le dis si vous l'avez oublié, mais ils ont juste là jusqu'au 31 décembre pour rattraper le temps perdu. Bonne chance. Ils n'ont pas l'air vraiment décidés. Non. Non. Bon. Bref, le temps des grands procès climatiques est venu. Cette étape est extrêmement importante dans le rapport du citoyen au droit. On est dans une république qui n'est typiquement pas écologique, mais en tout cas qui pose, qui fonde les termes de l'action citoyenne par rapport au droit. L'écologie politique progresse doucement vers la prise en considération des questions régaliennes, et singulièrement, donc, comme je le disais, grâce à Cécile Duflot, qui en viendra à adopter le terme république écologique comme concept fondateur de sa stratégie politique pour la primaire de 2016. Elle dit « L'identité politique de notre pays est républicaine. » Et c'est sur ce substrat historique et culturel que je propose de faire prendre souche à l'écologie comme voie de revivification de la promesse républicaine, mais aussi comme une voie de réinvention de l'intérêt général, on va y revenir, puisque la défense des biens communs et la défense des générations futures viendront désormais élargir la conception républicaine classique. Donc elle reprend les deux termes, intérêt général, bien commun et génération future, qui sont les étapes antérieures dont j'ai parlé, si vous suivez ce que je disais. Et même si sa candidature n'ira malheureusement pas à son terme, une nouvelle étape est encore franchie pour l'écologie politique, en tout cas en France. Alors, ça va, je vous assomme pas trop ? Bon. Alors, parallèlement, il faut bien se rappeler simplement que la prise en compte de l'avancement rapide des questions liées à l'écologie scientifique consolide chaque année un peu plus les résultats alarmants, évidemment, et commence à imprégner vraiment la vie des citoyens au gré des rapports du GIEC sur le climat, les alertes sur la disparition de la biodiversité, des COP, etc., des risques sur l'alimentation et de l'avancée des assemblées locales pour les droits de la nature un peu partout dans le monde. L'émergence de ces nouvelles approches est fondée sur le préjudice écologique et sa réparation réclame à ce titre, en fait, juridiquement, la protection des citoyens. Et là encore, on rentre dans le cadre de l'architecture juridique de la France où le droit va commencer à bousculer vraiment ses limites par rapport à la question écologique. Les collectivités locales s'en emparent aussi, si vous vous en souvenez, et les portent devant le Conseil d'État sous forme d'un recours pour excès de pouvoir. Et là, je vous renvoie à notre numéro de propos, excellent par ailleurs, hein, en vente à la librairie, parce que l'introduction de Bruno Latour, et c'est lui qui a employé ce terme, s'appelle « excès de pouvoir ». Et donc, ça renvoie vraiment à la définition de la notion de pouvoir et qu'est-ce que c'est aujourd'hui. La seule réponse est alors institutionnelle, vous le savez, c'est la création de la Convention citoyenne pour le climat. On ne va pas s'éterniser avec le succès que l'on sait. Mais obliger l'État à agir par son propre droit dont il ne se saisit pas pour montrer l'impasse à la fois politique et institutionnelle. C'est ça l'entrée de l'écologie dans la structure républicaine. Alors, à la suite de ça, vous le savez, et Marine Calmet sera là tout à l'heure ou demain, le combat pour la reconnaissance des droits de la nature, elle le porte avec son association Wild Legal, elle viendra le présenter elle-même, mais il faut comprendre qu'elle emmène avec elle toute une génération de juristes vers l'élargissement en fait, de l'objet du droit. Et là encore, on est dans cette démarche dont je vous parlais, que l'écologie en fait, pousse les limites, élargit, agrandit, étend en fait, la sphère de la République et du droit. Pendant ce temps-là, évidemment, au-delà des sciences dures, dont je parlais tout à l'heure sur les rapports du GIEC notamment, les sciences humaines et sociales, et surtout, bien évidemment, la partie citoyenne et les nouvelles mobilisations des marches pour le climat rythment l'agenda de la jeunesse. Alors, évidemment, j'en ai parlé, mais il faut voir qu'à côté de ça, il y a donc le droit, la République, les citoyens, les philosophes continuent à travailler, bien sûr, et donc je ne citerai que nos deux préférés. Je reviens sur Bruno Latour et surtout Philippe Descola aussi, qui démonte le processus culturel et civilisationnel de la domination. Et je pense que c'est bien en articulant toutes ces entrées que nous arriverons à identifier et à formaliser le concept de république écologique. Évidemment, le processus de domination conduit à la destruction par l'humain de la nature et des milieux vivants dont il dépend pourtant pour sa survie et son épanouissement. Là aussi, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Alors, dans ce contexte, évidemment, l'ouvrage de référence, en tout cas le plus abouti, reste sans conteste la trilogie fondamentale de Serge Audier qu'il a publiée entre 2017 et 2020. Où le concept d'éco-républicanisme est alors fondé, grâce à lui et toute son érudition, historiquement, philosophiquement et politiquement. Ce qui fait dire à Fabien Escalona de Mediapart, son approche est à mille lieues de la parade conservatrice autour de la République totem. Et là, si le sujet vous intéresse, je vous invite vivement à lire cette série sur Mediapart, publiée par Fabien Escalona, qui en six ou sept articles retrace ce hold-up dont je vous parlais tout à l'heure, politique, sur le concept et la notion et l'organisation et le fonctionnement et la légitimité républicaine. La légitimité républicaine, Lisa pourra vous en dire un mot. Encore une fois, ce n'est pas encore passé dans les mœurs qu'un écologiste peut s'en revendiquer. Alors, je dirais juste un mot sur cette trilogie que je vous invite vraiment à lire parce que, à mon avis, elle pose les fondements de la pensée de l'écologie. Lui, il appelle ça l'éco-républicanisme ou de l'écologie régalienne, comme vous voulez. Pour, à mon sens, au moins le siècle qui vient, et encore je pèse mes mots. Je pense que la déception face à l'accueil plutôt très confidentiel qu'a reçu son travail est à la hauteur de l'investissement intellectuel qu'il constitue, c'est-à-dire énorme. Ce travail est absolument fondamental. Pour autant, l'accueil est extrêmement confidentiel. Je pense que nous n'avons pas fini d'y revenir. Alors, dans cet ouvrage, il cherche à redéfinir en fait la communauté civique. Et à ce moment-là, la question de l'universalisme y est abordée. Mais comme on vient de le voir sur un certain nombre de sujets, non pas selon les dévoiements du concept originel des Lumières, mais justement pour poser là aussi, ce que disait François tout à l'heure, les termes d'une nouvelle dimension, celle de l'intérêt général élargi de vivre juste sur une planète vivable, tant qu'à faire. Et donc, poser les termes de l'universalisme de cette façon-là, c'est comprendre les vivants, c'est une république qui comprend les vivants, les morts, les à naître, comme il les appelle, et les non-humains. Autant dire que là aussi, on fait un bond en avant par rapport à l'avancée des outils que l'on comment dire, qui sont à notre disposition. Alors, il écrit qu'il existe un pseudo-universalisme qui ne veut rien savoir des différences et un universalisme plus sérieux et vigilant qui prend en compte les formes de non-reconnaissance et de discrimination. On y est. Je pense que là, une étape fondamentale a été franchie aussi. Après la démocratie, le temps long et le droit, voici que l'on commence à parler des générations à venir dans un ouvrage, encore une fois, qui traite de l'organisation institutionnelle de la France, en tout cas de la philosophie et de l'aspect politique que ça détermine. Alors, évidemment, vu à cette échelle, comment dire, très, très haute, hein, puisque Serge Audier est aussi philosophe, les polémiques qui traversent la société en hystérisant les débats qui accompagnent à la fois la dédiabolisation de l'extrême droite, bonjour Marine, en France, et la montée de tous les populismes autoritaires dans le monde ne constituent pas véritablement un objet pour l'écologie politique, quoi qu'il en soit de la variété des positions. Et donc... Pardon, ça c'est... Non. Et du coup, l'écologie ne va pas se situer dans ce domaine-là. L'écologie politique intervient rarement dans ces débats-là. Et pourquoi je disais bonjour à Marine, vous le savez bien sûr, puisqu'elle elle est en prise avec une municipalité d'extrême droite de longue date, qui ne lui laisse pas, on va dire, l'occasion de travailler sur le fond, mais de se battre là vraiment dans la pratique. Et je pense qu'il est temps, et ça sera en tout cas l'objet de la suite de nos réflexions, de travailler sur, de façon plus théorique, sur l'appréhension de la question de la relation avec tous les pouvoirs autoritaires et l'extrême droite en général, quand on est écologiste. Voilà. Donc, je terminerai juste cette présentation, si je n'ai pas été trop longue, j'espère. On va sortir un peu de notre cadre hexagonal, parce que je pense que la réflexion que suscite parmi nous l'exemple très récent de ce qui s'est passé au Chili est très importante. Dans le contexte particulier des pays d'Amérique latine, où le recours à la création d'assemblées constituantes est quand même plus aisé qu'en France, le résultat du dernier référendum, vous l'avez suivi sans doute, le 4 septembre, est plein d'enseignements, même s'il fut effectivement très décevant. Alors, la démarche au Chili, présentée comme une réponse aux mobilisations sociales, il ne faut pas l'oublier, hein, extrêmement importante de 2018 et 2019, c'est la mise en place du dispositif démocratique de la création d'une assemblée constituante par référendum. Puis, cette assemblée constituante qui se donne le projet fou d'écrire une nouvelle constitution en l'espace d'une année, 365 jours, pas un de plus. Cette nouvelle constitution, je ne sais pas si vous l'avez lue, mais si vous ne l'avez pas fait, lisez-la, elle existe en français. Je peux vous transmettre le lien si vous voulez, si vous ne l'avez pas. Elle est porteuse d'un nouveau projet de société, en fait, et constitue une avancée, mais majeure. D'abord, pour démontrer à quel point la Constitution est évidemment liée à un projet politique. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y eut tout un temps quand même où les constitutionnalistes nous expliquaient que la Constitution n'était pas un objet politique. Alors, lisez la Constitution chilienne, et là, je vous assure que vous ne direz plus jamais ça. Elle en est la traduction, en fait. Parce qu'en l'occurrence, c'est la Constitution de Pinochet, évidemment libérale et autoritaire, qui lui survit encore 30 ans après. C'est un modèle du genre. Mais de la même façon, en France, notre constitution de la Ve République, elle porte encore en elle tous les critères du modèle de développement de l'après-guerre. Croissance, centralisme, présidentialisme, productivisme, uniformité territoriale, hyperconsommation, blablabla. C'est un projet politique, c'est celui de l'après-guerre. Et c'est parfaitement légitime, alors après on peut discuter, mais en sortant de la Deuxième Guerre mondiale, de l'avoir conçu sous cette forme-là. Aujourd'hui, dans l'espace de cette Constitution, l'État est corseté et son action est entravée, de fait, par ces textes-là. L'écologie, clairement, elle est empêchée par ces textes. Et évidemment, ils sont complètement dépassés par les enjeux du monde contemporain. Il y a inadéquation aujourd'hui entre l'écriture de la Constitution de la Ve République et les enjeux de l'époque. Moi, si vous voulez, je prends la Constitution chilienne, je la mets au vote et je dis « je vote demain sans aucun problème », avec quelques adaptations locales. Mais franchement, regardez ce que c'est passionnant. Alors, je vais m'arrêter là. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que l'on lit dans cette constitution chilienne, c'est la volonté de changement des rapports de pouvoir. Rapports de pouvoir, de domination, de l'économie, du modèle social. Ils sont quand même... Enfin, vous savez d'où ils viennent. Du rapport au territoire, de la santé. C'est vraiment à couper le souffle. Mais pour autant, et c'est ça qui est quand même compliqué, c'est qu'elle a été rejetée par le vote du référendum du 4 septembre. Donc, ce rejet, à mon sens, ou à notre sens, parce qu'on en parle avec l'ensemble des membres de l'association et de l'écosystème dans lequel on travaille, ce rejet, en fait, montre que les évolutions, ou confirme, je dirais, que les évolutions institutionnelles précèdent rarement la bataille culturelle. Et que c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, réunis, et qu'il faut continuer pour gagner cette bataille culturelle. Je vous remercie. Et je passe la parole à Lisa. Tu veux dire un mot ?
Non, je voulais juste savoir si vous souhaitiez qu'on réagisse d'abord à cette première partie, ou ça serait peut-être mieux de terminer les prises de parole, non ? Hein ? Ouais, ok.
Donc la question par laquelle Claire a débuté, c'était la République, c'est qui ? Moi, j'ai envie de vous dire, la République, c'est moi. Alors, au-delà de faire un clin d'œil à un illustre ex-futur président de la République, ex-futur Premier ministre, je commence comme ça parce que quand il a dit ça, il était député. Et en fait, il avait raison. La République, c'était lui, et aujourd'hui, la République, c'est moi, députée écologiste, et mes 576 collègues députés. Et puis, c'est aussi les 348 sénateurs. Et c'est aussi un gouvernement, un Conseil d'État, une Cour des comptes, un Conseil constitutionnel, un Conseil économique, social et environnemental. En fait, c'est tout un tas d'institutions qui fonctionnent ensemble et se contrôlent les unes les autres pour veiller à l'équilibre des pouvoirs, notamment. Alors pour moi, parlementaire, bon, le cœur de la République, ça reste le Parlement et puis sa relation avec le gouvernement. Si je commence comme ça, c'est parce que moi, ce que je veux faire, c'est partager mon expérience de député, le côté un peu pratique de la République, pour vous proposer ensuite esquisser un cadre pour une République écologique, poser peut-être quelques questions pour ouvrir le débat. Alors, je voulais commencer par un petit rappel sur les institutions de la Ve République, qu'on parle bien de la même chose. Donc dans la Ve République, on a un président de la République, hein, c'est quand même lui qu'on connaît le mieux en France, un premier ministre et son gouvernement, et puis de l'autre côté, on a des députés, des sénateurs, et il y a des relations entre ces deux institutions. Ce qui est intéressant dans la Ve République, c'est qu'on a à la fois des traits classiques des régimes parlementaires et puis des régimes présidentiels. Il y a d'ailleurs certains constitutionnalistes qui parlent de régime semi-présidentiel. Nous, les écolos, on a carrément tendance à dire que c'est plutôt un régime présidentiel. Bon, on va en parler. Alors le gouvernement, qui est dirigé par le Premier ministre, il est responsable devant l'Assemblée élue au suffrage universel direct, et ça, c'est plutôt ce qui participe du côté parlementaire. En contrepartie de cette responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée, celle-ci peut être dissoute par le chef d'État de l'État, qui est le président de la République. Et en revanche, la désignation du président de la République au suffrage universel direct, et puis son rôle en matière de politique étrangère, mais aussi même dans la politique de la conduite du pays, enfin en tout cas quand il n'y a pas de cohabitation, n'ont pas d'équivalent dans les régimes parlementaires comme celui du Royaume-Uni ou celui de l'Allemagne. Et donc, de ce point de vue-là, on se rapproche plutôt du modèle américain. Et puis bon, évidemment, la réduction du mandat à 5 ans l'inversion du calendrier avec l'élection du président de la République avant l'élection des députés a encore renforcé le poids du chef de l'État. Alors sur le... J'ai un peu revu mon intervention la nuit dernière, je vous avoue. Parce que je voulais parler d'un phénomène particulier qui nous préoccupe pas mal cette semaine, c'est que la Constitution de la Ve République, elle prévoit plusieurs outils permettant au gouvernement et au Parlement d'interagir, notamment en cas de désaccord. Et donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le Premier ministre peut engager la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée, et c'est le fameux 49.3, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. En réponse, les députés ont une réponse possible, c'est de déposer une motion de censure. Et si celle-ci est adoptée, le gouvernement est renversé. Et en réponse, le président de la République, surplombe un peu tout ça, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc, on recommence à zéro. Alors, le 49.3, pour rappel, il peut être utilisé une fois par session parlementaire et sur chaque texte budgétaire. Donc, en fait, on entend souvent... Oui, mais il peut être utilisé qu'une fois, mais en fait, sur les textes, sur toutes les parties des textes budgétaires, donc projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale, il peut être utilisé. Donc cette semaine, on a eu une fois sur le projet de loi de finances, la première partie, et une fois sur la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il peut y en avoir encore plein, du coup, d'ici la fin de l'année. Alors je fais une petite incise dans ma présentation à ce stade pour rappeler que la Ve République s'appuie sur une constitution. Donc ce fameux 49.3, c'est en fait l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Et il est bon de rappeler que la tradition juridique française a longtemps accordé une primauté absolue à la loi, votée par les représentants du peuple et qui était donc l'expression de la volonté générale. Et ça, c'était inscrit dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc la Constitution de la Ve République a confié au Conseil constitutionnel, qui est une institution collégiale, le soin de vérifier avant la promulgation la conformité de la loi à la Constitution. Donc on a replacé la Constitution au-dessus de la loi. Par la suite, le rôle du Conseil constitutionnel s'est progressivement affirmé, notamment au début des années 70. Le Conseil a élargi le cadre de son contrôle en intégrant le bloc de constitutionnalité qui comprend la déclaration de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et d'autres principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, notamment, et ça nous intéresse, la Charte de l'environnement de 2005. Et en 1974, la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel a été élargie à 60 députés ou 60 sénateurs, conférant ainsi de fait un pouvoir important à l'opposition parlementaire. Et nous, on a déjà eu recours, dès le mois de juillet par exemple, à cet outil, au recours devant le Conseil constitutionnel sur la loi pouvoir d'achat qui mettait un coin supplémentaire dans le principe des 35 heures. Et donc le Conseil constitutionnel en 85 affirme que la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. L'action du législateur doit s'inscrire dans le respect de l'ensemble des principes à valeur constitutionnelle. Et cette évolution a été confortée par la reconnaissance, en 2008, d'une possibilité de saisine a posteriori du Conseil constitutionnel. Et c'est ce qu'on appelle c'est l'apparition de la question prioritaire de constitutionnalité. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Bon, le but, c'est pas de faire un cours de droit constitutionnel, je ne suis pas encore une spécialiste. Mais c'est un peu pour éclairer l'actualité. Donc je vous ai parlé des deux 49.3 qu'on a connus en 24 heures. Et ça m'a beaucoup questionnée. C'est assez bouleversant, en fait. On arrive, on est nouveau député et on se rend compte que, en fait, d'un mot, en 5 minutes de discours, la Première ministre, elle peut dire « Tout le travail que vous venez de faire, je le balaye. » En fait, je balaye les amendements que vous avez votés, je balaye le travail que vous avez fait en commission, tout ça terminé, moi j'impose mon texte. Et je déciderai quels amendements je garde ou pas, je ne sais pas si vous avez suivi, sur le PLF on garde 117 amendements, 98 de la majorité présidentielle, puis quelques autres piochés à droite à gauche. Sur des milliers, ouais. Parce que c'est pas du blocage, c'est que les oppositions font leur travail et proposent des amendements construit. Alors, on sait qu'on a connu une inflation du nombre d'amendements déposés, mais c'est aussi du travail. Hein. Ce n'est pas juste pour embêter le gouvernement. Donc, c'est vrai que c'est bouleversant de vivre ça. Donc, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça disait de notre mode de fonctionnement et qu'est-ce que ça disait de notre 5e République. Alors, au départ, j'avais prévu de vous raconter aussi, et je fais quand même encore une petite digression, une journée de député. Parce qu'une journée de député, c'est entre 4 et 11 heures dans l'hémicycle. C'est en même temps que les séances dans l'hémicycle des commissions pour examiner très vite ou aussi vite que possible tous les amendements qui ont été déposés pour donner un premier avis, l'avis de la commission. Et parfois même, on doit courir de l'hémicycle en commission et de commission à l'hémicycle pour aller voter, pour revenir présenter ses amendements, etc. Enfin, on n'a pas vraiment le temps de délibérer. Et ça pose question aussi sur le fonctionnement de notre République, de notre démocratie. Et ça pose la question de comment on fait pour faire exister un débat contradictoire et éclairé dans ces conditions. Alors, sans trop m'étendre sur ce volet, je voulais quand même poser le contexte et j'y reviendrai. Donc pour revenir au 49.3, on l'a eu sur le PLF mercredi soir et puis hier soir sur le plan projet de loi de financement de la sécurité sociale. J'ai beaucoup de collègues qui crient et qui dénoncent un déni de démocratie. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, on balaye les amendements qui ont été adoptés, le gouvernement fait ce qu'il veut, avec son 49.3 il a les mains libres pour décider de ce que contiendra le texte ou pas. Mais en fait, l'usage du 49.3, en y réfléchissant bien, il est légitime. C'est un outil de la Ve République, c'est un outil de la Constitution. Alors, il était plutôt à l'origine pensé pour régler un différend entre le gouvernement et une majorité absolue qui est du même bord, normalement, à l'Assemblée nationale. Ce qui est différent aujourd'hui, et ça a été évoqué, c'est qu'on se trouve dans une situation qui n'était pas prévue au moment où la constitution de la Ve République a été pensée. C'est qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors on s'est tous gargarisés d'avoir imposé, comme je crois que c'est Boris Vallaud qui disait ça, un parlementarisme de fait, d'avoir redonné du pouvoir à la délibération à l'Assemblée nationale. Mais en fait, la réalité, c'est que la constitution de la Ve République, elle n'est pas prévue pour ça. Elle n'est pas prévue pour qu'une Assemblée nationale sans majorité absolue puisse fonctionner. Alors ça fonctionne quand même, mais c'est très chaotique du coup. C'est la conclusion en tout cas à laquelle j'en suis arrivée à ce stade. Hein. Mais en fait, de fait, on n'a pas d'outils nous permettant de proposer ou d'imposer un compromis au gouvernement. Si on nous oppose le 49.3, notre seul outil, c'est d'essayer de renverser le gouvernement. Il n'y a pas d'outil dans la Constitution qui permet de construire, de co-construire ou de proposer le compromis. Donc, ça ramène au fait majoritaire. On a une Constitution aujourd'hui qui est conçue pour un fonctionnement majoritaire. Ceci étant posé, tout n'est pas tout noir à l'Assemblée nationale et tout n'est pas tout noir dans notre fonctionnement, dans le fonctionnement de notre République. Et si cette écrasement du parlementarisme peut sembler un peu accablant aux écologistes que nous sommes, je crois qu'il est aussi bon de noter les effets positifs du fonctionnement de l'Assemblée nationale, parce qu'il y en a. Et notamment, ce à quoi je ne m'attendais pas, et ce que je découvre un peu dans le travail des commissions, c'est qu'en commission, on peut voir se créer des alliances politiques qui dépassent le clivage gauche-droite. Enfin, en tout cas, c'est ma lecture. Et moi aussi, je vais beaucoup faire référence à Bruno Latour. Hein, je le considère comme mon maître à penser. Et on peut voir naître des alliances politiques entre terrestres. Et l'exemple que je donne, parce que moi, je suis en commission du développement durable et d'aménagement du territoire, dont j'en suis la vice-présidente. Et dans cette commission, on traite beaucoup de sujets de développement durable. Alors, on aimerait bien changer. Enfin, moi, j'aimerais bien changer le nom de la commission, parce que développement durable. Mais bon, bref. Lié à l'environnement, entre guillemets. Dans cette commission, on est souvent d'accord avec nos collègues du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, qui contient beaucoup de députés d'outre-mer. Et souvent, ils adoptent des positions communes aux nôtres. Alors que pourtant, sur l'échiquier classique gauche-droite, on n'est pas forcément d'accord. Quoi. On n'est pas forcément situé. On n'est pas situé d'ailleurs du même côté de l'Assemblée, de l'hémicycle. Mais c'est des élus, notamment, enfin, vraiment, les élus d'outre-mer, du fait de leur origine géographique, qui sont en prise plus directe avec certains effets du changement climatique ou avec qui sont plus sensibles à certaines questions de pollution. Et donc, dans ces moments-là, j'arrive à percevoir le nouveau clivage qu'on pourrait créer, sur lequel moi je pense qu'on doit travailler, qui est terrestre contre hors-sol, enfin contre les terrestres et les autres, quoi. Et je pense qu'on peut construire ces alliances sur ces bases-là. Alors pour rappel, hein, les terrestres, ce sont les personnes qui acceptent que nous vivons sur Terre, dans la zone critique, cette fine pellicule de vie à la surface de la planète, et que par conséquent, nous sommes obligés d'accepter les règles de fonctionnement de la zone critique pour pouvoir y vivre. Je pense qu'ici, on est tous d'accord qu'on vit dans la zone critique. Et donc ça, ce sont les règles du jeu. C'est la base de tout le reste, c'est les règles du jeu, c'est on vit dans la zone critique. Et donc, je pense qu'on peut admettre ensemble qu'on ne peut pas vivre ailleurs. Donc, on est obligé de respecter ces règles du jeu. Et je pense qu'il est utile d'avoir ça en tête pour relire les alliances politiques. Donc, les députés d'outre-mer, par exemple, ils connaissent bien le scandale du chlordécone. Et donc, quand on évoque les questions de pollution chimique, ils sont vraiment extrêmement sensibles au sujet et on peut vraiment tomber d'accord vraiment au-delà de la droite et de la gauche, parce qu'ils ont vécu physiquement les conséquences du non-respect des règles du jeu de la zone critique. En commission, il y a une autre chose qui est assez sympathique. On vit ce qui pourrait s'apparenter à un début de travail d'enquête pour nourrir la délibération. Le travail d'enquête, c'est... quand on fait, par exemple, des rapports parlementaires, en fait, les missions parlementaires sont co-rapportées par un député de la majorité et puis un député d'une opposition. Et ils doivent se mettre d'accord à la fin. Donc ils font un long travail, enfin plus ou moins long travail, parce qu'il y a différents niveaux de mission, mais ils font un travail d'enquête et à la fin, ils doivent se mettre d'accord. Pour produire un rapport sur lequel il y aura leurs deux noms. Ou des fois, il y a même plusieurs députés, plus que deux personnes engagées. Et donc, c'est très intéressant parce qu'à l'issue de ce travail, souvent, on a des rapports assez écolos, je dirais. Et je pense que certains d'entre vous qui sont engagés dans des luttes ont déjà eu l'occasion d'invoquer tel ou tel rapport parlementaire pour appuyer des arguments contre un grand projet inutile ou en faveur d'un autre projet. Et en fait, le dernier que j'ai vécu, c'était un rapport sur les zones de faible émission, avec un député de Horizon, donc majorité présidentielle, et un socialiste. Et en fait, ils sont arrivés à des propositions assez intéressantes qu'on qualifierait plutôt de gauche et plutôt écolo sur le fait de pouvoir... conserver une vieille voiture, mais qui serait une voiture légère, de petite taille, parce qu'on se rend compte qu'elle pollue quand même moins qu'un gros SUV qui est critère 1, mais qui est beaucoup plus récent. Enfin, ils arrivent à des choses comme ça qui nous paraissent évidentes. Mais à l'issue du travail d'enquête qu'ils ont fait, ils se rendent compte que les grosses voitures, ça pollue plus que les petites, et que du coup, ça serait sympa d'avoir des petites voitures dans les ZFE. Et que peut-être qu'on pourrait revoir un petit peu le système. Et moi, je trouve ça très intéressant de voir que quand on travaille, quand on fait vraiment ce travail d'enquête, on arrive à un consensus qui, souvent, est plutôt écolo. La bataille culturelle. Alors, il manque un troisième axe que moi, m'intéresse, c'est la délibération. Moi, je n'ai pas connu encore, depuis que je suis députée, une vraie délibération. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est le moment où on va vraiment... partager nos arguments pour co-construire ensemble une position et prendre une décision commune. La délibération telle qu'on la connaît dans l'hémicycle, c'est plutôt un combat d'arguments et personne ne change jamais d'avis dans l'hémicycle, en fait, hein, concrètement. On a beau opposer tous les arguments qu'on veut, on co-construit pas, c'est chacun sa position politique. Mais cela dit, je pense que les députés qui font une mission parlementaire ensemble, ils vivent quand même cette expérience de la délibération, puisqu'ils sont obligés d'arriver à une position consensuelle à la fin. Donc ça doit exister aussi. Mais c'est peut-être ce temps de la délibération qu'on devrait pouvoir réussir à installer dans le travail parlementaire. Alors pourquoi je vous ai dit tout ça ? J'ai partagé ces petites expériences, c'est... Parce que j'ai deux questions en fait. Déjà, ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu cette semaine à chaud, les 49-3, tout ça, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la Ve République ? C'est sûrement une question qu'on doit se poser et qui nous invite encore davantage à réfléchir ensemble à ce que pourrait être du coup notre République écologique. À vrai dire, on le saura lundi parce que si nos motions de censure sont adoptées lundi, on aura vraiment des questions à se poser sur. Cette République qui semble être à bout de souffle et en tout cas pas du tout adaptée à un parlementarisme non majoritaire. Donc, une fois tout ce contexte posé et la question de se dire est-ce qu'on est au bout de la Ve République, j'ai envie de vous demander une République écologique, ça veut dire quoi ? Alors, vous l'avez sûrement senti, moi je vous propose quelques axes ou quelques morceaux du cadre d'une république écologique, c'est ce rôle de la délibération. Quelle place de la délibération ? Prendre le temps, au-delà des postures politiques, d'échanger dans le but de construire une position commune pour aboutir à une décision. Pour faire ça, on a besoin d'une enquête. Donc, les méthodes de l'enquête. Comment on enquête ? À quoi sert l'enquête ? Pareil, quels sont les espaces et quel est le temps pour enquêter ? Et cette enquête, elle sert à quoi ? Elle sert à éclairer les dépendances, à mettre à jour les relations entre le sujet qu'on étudie et puis le système dans lequel on est. Et souvent, l'enquête, moi, je crois, fait surgir les autres acteurs dont on a parlé, les non-vivants dans la prise de décision, mais je connaissais pas la proposition de parler aussi des morts et des à naître. Donc, l'enquête, à mon avis, fait surgir toutes ces personnes, tous ces êtres, on va dire, dans la prise de décision. Et donc, dans une république écologique, quelle place des non-vivants ? Quelle place on lui donne ? Bruno Latour évoquait le Parlement des choses. Comment on les fait contribuer à la prise de décision ? Dans une république écologique, j'imagine aussi qu'on va devoir créer de nouvelles alliances, les terrestres face au hors-sol. Comment on construit les nouvelles alliances ? Comment on dépasse notre clivage politique droite-gauche ? Et le prérequis à tout ça, c'est les règles du jeu. Quelles sont les règles du jeu ? On a évoqué Gaïa, ou la zone critique. C'est toi qui as évoqué Gaïa, François. La zone critique. Est-ce qu'on peut se dire ensemble que le prérequis, le truc de base duquel on a démarré, c'est que nous, êtres humains, on vit dans la zone critique et a priori, on peut vivre nulle part ailleurs. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur ça. On peut pas vivre dans l'espace... on n'est pas Elon Musk ou Donald Trump. Nous, a priori, on estime qu'on peut pas vivre ailleurs que sur Terre et dans la zone critique. Et donc, pour reboucler avec l'introduction, on a vu qu'aujourd'hui, notre République, elle est définie par, selon la Constitution, la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Eh bien, moi, j'ai envie de vous poser une question pour ouvrir le débat. C'est nous, écologistes, qu'est-ce qu'on dirait de notre République écologique ? La France est une République écologique, ça veut dire quoi ? Quelle serait notre phrase chapeau ? Est-ce qu'on rajoute écologique à indivisible, laïque, démocratique et social, et écologique ? Ou de quoi on part ? Et donc, voilà, je voulais vous poser cette question pour ouvrir le débat.
Merci. On a pris un peu plus de temps, mais c'était peut-être nécessaire de déplier un certain nombre de choses. Et donc maintenant, parole à la salle, parce que faire entrer dans la République écologique des données qui n'étaient pas d'ordre des données de la République. Moi, j'ai un petit exemple à vous donner, juste pour une seconde. Au Moyen-Âge, on a discuté de savoir si les animaux avaient une âme, c'est-à-dire si les animaux pouvaient aller au paradis. Est-ce que ce n'était pas la déclinaison de l'époque, dans un contexte social différent du nôtre, mais de se poser aussi des questions qui sont celles qu'on se pose aujourd'hui sur la place du vivant non humain. Voilà, donc faire entrer tout ça dans la République. Alors, je vois une première main qui se lève.
Alors moi, je voudrais répondre justement à vos questions, mais par un paradoxe. C'est-à-dire que finalement, on a un moment où il faut réfléchir sur les idées nouvelles. On a une histoire très riche. Et en effet, je vous remercie, je vous félicite. Enfin, vous avez fait une synthèse qui n'est vraiment pas facile. Il y a un témoignage sur ce qui se passe actuellement. Mais moi, je suis anthropologue et j'ai travaillé sur la démocratie, notamment la démocratie grecque. Et je voudrais vous rappeler quand même que les républicains, la Révolution française, ils admiraient le régime de Sparte. Ils n'avaient pas du tout de tendresse par rapport à Athènes. Et ils admiraient aussi la République de Platon. Or, le régime de Sparte et la République de Platon s'opposent à la démocratie. Voilà. Alors, la République en quoi ? Je vais faire juste 5 points. Hein. C'est très rapide. Mais ça permet peut-être de nous ouvrir un petit peu sur le débat. La République, elle est verticale. La démocratie est horizontale. La République est verticale. La démocratie est horizontale. La République est autoritaire, dirigée par des élites. La démocratie permet à chaque citoyen de s'exprimer, d'enquêter, de délibérer et d'agir. Hélas, à l'époque, sauf les femmes, les métèques et les esclaves, ce qui était quand même une grande partie de la population. Donc c'était à améliorer. La République est une et indivisible, on l'a dit. La démocratie est pluraliste, décentralisée, localisée. La République est conservatrice. La démocratie est progressive. La République est tournée vers les idées hors du monde, métaphysiques. La démocratie est immanente et écologique, recherche le bien-être sur Terre. Alors, si nous voulons le développement de l'intelligence collective, comment passer du paradigme républicain au paradigme démocratique ?
Je ne vais pas rentrer dans le débat qui vient d'être ouvert, mais j'ai une question à Lisa. Donc, si on parle de République, on parle de République écologique, mais chez la France insoumise, ils parlent de 6e République. Alors, j'aimerais bien savoir, au niveau des députés des uns et des autres, comment ça se passe ? Est-ce que vous en discutez ? Est-ce que chacun est sur ses positions ? Est-ce qu'il y a des possibilités de convergence, etc. ?
Merci pour votre exposé. La question que je me pose, c'est, en observant quand même une certaine matérialité, c'est un monde qui est très rapide, et vous avez justement évoqué votre journée de député, qui est une journée intensive, où vous faites en même temps plein de choses. Et ça revient souvent chez les députés qui sont sur plein de fronts en même temps et qui n'ont même pas le temps de creuser tous les dossiers parce que c'est littéralement impossible, c'est physiquement impossible de traiter chaque dossier, ça va trop vite. Donc ma question c'est, même dans une 6e République ou dans une République écologique, comment gouverner et prendre des décisions dans un monde hyper rapide avec des infrastructures techniques qui sont tellement lourdes, avec des dépenses sous-entières qui sont tellement massives qu'il y a une certaine quand même impuissance en tant que décideur ou décideuse politique. Voilà. C'est la question que je me pose. Merci à vous.
En fait, ma question rejoint peut-être un peu la première question qui a été posée. Vous avez parlé de bataille culturelle. Comment on fait pour la mener ailleurs qu'ici, ailleurs que au Parlement ? Comment on sort d'une forme d'entre-soi quand même résiste. Comment on fait pour toucher plus de monde et pour passer à l'axe de manière plus efficace.
Oui, deux questions qui rejoignent un peu les deux questions qui viennent d'être posées. Je n'ai pas entendu le mot État dans toutes ces analyses que je trouve très brillantes. Or, vous savez qu'un problème majeur que nous avons en France, c'est la démocratisation de l'État. Tant que la République repose sur un État qui est extrêmement peu démocratisé, on ne va pas faire de progrès. Deuxième lacune qui me gêne énormément, c'est l'hexagonalité de ce débat. Si on ne parle pas d'Europe, si on ne se sert pas de l'Europe pour démocratiser l'État français héritier d'un centralisme insupportable, d'une éducation hyper élitiste, on est dans la République, mais au mauvais sens du mot. Et moi, ça me gêne beaucoup qu'on court après la République comme s'il fallait pas qu'on laisse la République à des vieux schnocks de la gauche, dans le genre de Bidochon, ou qu'on aille chercher, courir après le républicanisme. Ça a été très bien dit dans la trôle. Mais les leviers positifs de ça, ils sont du côté d'un programme de démocratisation de l'État à travers l'Europe, et il se trouve que les écologistes sont très bien placés à cause de leur implantation, de leur volonté de s'implanter localement, et peut-être de redéfinir complètement la res publica. Alors je vous renvoie par exemple aussi bien à Bruno Latour qu'à Gaël Giraud, qui disent que quand même au-dessus de la res publica, il y a les biens communs terrestres. Et la République, la seule chose qu'elle doit faire, c'est être serviteur. Et quand j'entends serviteur, ça veut dire abaisser l'État de ses valeurs. Et je pense que tant qu'on ne fait pas ça, on n'y arrive pas. Et tant qu'on ne s'appuie pas sur le mouvement de fédéralisation européen, non plus. Voilà.
Merci pour vos exposés, mesdames, puisque c'est des femmes. Vous ne parlez pas de la Constitution. Il y a eu, sous précédent quinquennat, ils ont tenté, en tous les cas, d'intégrer dans le projet de loi constitutionnelle, dans l'article 1 de la Constitution, la préservation de l'environnement, qui a été retoquée et du coup abandonnée. Donc ça, voilà. Et puis, république, nation, etc., c'est maintenant des termes qui sont très repris par une extrême droite identitaire. Et moi, j'en ai un peu marre d'entendre ces mots-là. Et donc, comment on peut raconter autre chose de République? La cinquième, elle est arrivée à bout de souffle, mais qu'est-ce qu'on peut construire? Comment on peut redessiner une République qui soit égaux, qui parle d'autre chose? Tu comprends, Claire, ce que je veux dire? Donc, il y a ça, et puis, je voulais parler de la Constitution. On a vu, là, l'IVG a été au Sénat retoquée. Il y a un vrai sujet sur la Constitution, et puis sur la fin, en réalité, de la Ve République. Moi, République, c'est quelque chose c'est un terme qui nous effraie, parce que c'est repris par l'extrême droite, et elle est reprise dans un sens plutôt nationaliste, républicaine, à la droite identitaire, etc. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres termes qu'on peut reprendre, nous, les écologistes, qu'on peut retravailler sans s'enfermer dans des cases un peu identitaires?
Est-ce que l'animateur peut faire une première réponse ou c'est réservé aux intervenants? Non, c'est bon.
Pas du tout, au contraire.
Parce que je rebondirais bien sur ce que tu viens de dire par rapport à ras-le-bol des termes de République et de Nation. Je peux me permettre une petite citation, ça tient en quatre lignes. « Nation, mot pompeux pour dire barbarie. L'amour s'arrête-t-il ou s'arrête vos pas? Déchirez ces drapeaux, une autre voix vous crie. L'égoïsme et la haine ont seule une patrie, la fraternité n'en a pas. » Alphonse de Lamartine en 1848, au moment où on a ajouté le terme de fraternité à liberté, égalité, parce que ça, on n'en a pas parlé non plus dans la devise de la République. Bon, à vous.
Merci François et sa mémoire imbattable. Justement, Halima, tout ce que tu viens de dire, la question, c'est la réappropriation de cette structuration historique qui n'appartient à personne. Le thème de ce que l'on a présenté, l'introduction, c'est de dire comment l'écologie politique peut emmener tous les référents dont tu as parlé au-delà de ce qu'ils sont aujourd'hui. J'évoquais évidemment le terme de république, mais évidemment le terme d'universalisme, comme l'avait dit aussi François, etc. etc. C'est-à-dire que il n'y a aucune raison qu'on leur laisse ce qui est le fondement de, en tout cas, la gestion, et je reviendrai après à votre question, monsieur, sur la question européenne, bien sûr, mais en tout état de cause sur la France, Mais enfin, on ne va pas leur laisser ce qui appartient à tout le monde. Pourquoi ? Alors, bien sûr que l'on cherche, et c'est ça l'objet, et merci pour vos questions, merci pour vos remarques, toutes les questions que vous nous posez. Si on avait la réponse, eh bien, je ne sais pas, on serait peut-être déjà présidente de la République, je n'en sais rien, écologique. On est en train de le faire, et la bataille culturelle que l'on mène ici, on la mène aussi ailleurs. Mais le travail entrepris aujourd'hui, c'est de dire que une part de l'écologie qui s'est développée en marge de ces questions, si elle veut progresser aujourd'hui, ici et ailleurs, mais en tout cas ici et maintenant, il faut qu'elle s'approprie et qu'elle dépasse, qu'elle permette un dépassement. Parce que, je l'ai montré, je crois, sur au moins 5 ou 6 exemples, on a le patrimoine idéologique, philosophique et politique pour le faire. Et qu'évidemment, nous n'allons pas nous contenter de définir l'universalisme blanc, patriotique, excluant, dominateur. Non. Ce que l'on disait, c'est que pour nous, on a le droit d'utiliser ce mot d'universalisme, mais d'y mettre ce que nous voulons dedans. C'est ça le travail qui est en cours. Comment voulez-vous ? C'est une révolution en soi. C'est une rupture en soi. C'est vraiment ontologique pour le coup. On change totalement d'échelle. À partir du moment où on considère que la République une est indivisible, et indivisible, pardon, inclut le non-humain, excusez-moi du peu, mais on n'est pas rendu sur la rédaction de la Constitution, hein. Le Chili à côté, c'est facile, hein. Donc, il y a cette façon dont nous voulons poser la question de façon extrêmement, justement, provocante, pour que ça ne provoque plus chez les écologistes ce rejet, mais au contraire, cette posture qui consiste à dire « nous pouvons le faire et nous pouvons l'emmener plus loin ». Et nous l'emmènerons, bien sûr, et vous avez raison de le souligner, monsieur, on n'a pas... C'était difficile de faire rentrer tout ça dans un temps court, dans la dimension européenne, bien sûr. Le projet politique d'une Europe fédérale remet fatalement en question la République. Donc, évidemment, il y a, je vous invite à la conférence numéro 2, que nous tiendrons, j'espère, bientôt, sur ce sujet, il y a là aussi tout un pan à développer et objectivement, ce matin, là, on aurait dû le développer plus, je vous l'accorde entièrement, mais et je rejoins ce que vous avez dit et je le partage. Simplement, je n'ai pas le temps de le développer. Lisa ?
Ouais. Merci. Je vais essayer de répondre aux questions précises qui ont été posées, notamment sur la 6e République des Insoumis. Alors on n'en parle pas trop, mais on n'est quand même pas tout à fait d'accord sur un certain nombre de sujets et ça se remarque dans nos débats. Par exemple, pour eux, l'unité, c'est la commune et c'est pas tout à fait notre cas, même dans la situation actuelle. Pour la FI veut réhabiliter la commune. Et puis ensuite, eux, leur 6e République est quand même un modèle assez descendant. Assez descendant et centralisé, qui n'est pas tout à fait ce que l'on porte et ce que l'on essaye de proposer ici. Et c'est quand même. Ils sont héritiers de la tradition socialiste, hein, qu'on le veuille ou non, même s'ils ont écologisé beaucoup, et qu'ils ont fait un vrai travail d'écologisation de leur discours, c'est quand même l'homme au centre, enfin, ou les humains au centre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop de... La question du vivant et des non-humains n'est pas trop abordée par les insoumis, ce qui change quand même à peu près tout à leur approche. Il y avait une question sur le fait que tout va très vite, que très concrètement, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité physique de s'approprier tous les dossiers, c'est vrai. Et je vais faire une réponse un peu de d'utopie, mais dans le travail qu'on engage et dans ce qu'on aimerait proposer, il est urgent de prendre le temps. Vous vous souvenez de l'urgence de ralentir, ce film qui avait fait un peu de bruit. Il est urgent de prendre le temps, et dans une république écolo, la première urgence, c'est de mettre le pied sur le frein, de se poser et de dire qu'est-ce qu'on fait. Prenons le temps de délibérer, prenons le temps d'enquêter, évidemment, pour connaître les dossiers, ce que vous évoquiez, et s'approprier les sujets, il faut mener ce travail d'enquête. Et ce travail d'enquête, il prend du temps. Et donc, si on veut parvenir à dépasser tout ça et à dépasser ce système, il faut ralentir, il faut arrêter de... Même nous, écolos, hein, moi, je vais peut-être m'inscrire en faux par rapport au discours de l'urgence climatique. Oui, on est à 2 cm du mur, c'est vrai. Et pour autant, je crois qu'on ne s'en sortira pas si à un moment, on ne se pose pas pour dire « Attendez, qu'est-ce qu'on fait là ?» Où on va, et c'est ce qu'on essaye de faire ici. Donc il est vraiment urgent de ralentir si on veut avoir l'espoir de s'en sortir. Ça peut te sembler paradoxal, mais moi, je ne vois pas d'autres propositions à ce stade. Sur la bataille culturelle, comment on sort de nos cercles militants et tout, je crois que c'est un peu le but de Jacques et Aline aujourd'hui en organisant ces deux jours. Alors évidemment, on est quand même entre écolos aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Mais j'ai un autre avis sur la question. Moi, j'ai fait connaissance des ateliers Où atterrir. J'ai une petite dédicace. Et en fait, c'est une méthode, c'est un processus qui est proposé pour travailler, pour du coup faire ce travail d'enquête, s'intéresser d'abord à son concernement. Quel est le sujet qui nous ferait nous relever la nuit tellement ça nous préoccupe, ça nous touche, ça nous bouleverse. Donc déjà identifier son concernement et ensuite mener un travail d'enquête, mettre à jour les dépendances, mettre à jour les relations. Et en fait, les ateliers atterrir, c'est une méthode pour faire tout ça. Et là où ça a été expérimenté, alors évidemment, il faudra en faire plein pour toucher plein de monde. Donc c'est un travail de fourmi. Mais ils sont parvenus à toucher des personnes qui ne sont pas des écolos, mais qui sont des terrestres. Ou qui ont découvert qu'ils étaient terrestres par ce travail. Et moi, j'ai rencontré, il y a eu les universités d'été. Je suis désolée, je suis une grande fan de Bruno Latour et de ses travaux et de ce que font ces équipes. Enfin, j'ai pas à m'en excuser, mais voilà, c'est mon référentiel pour moi. Ils ont vraiment réussi. J'ai été aux universités d'été de Où atterrir. J'ai rencontré un agriculteur pas bio qui avait été complètement transformé par ce process. J'ai rencontré des gens pas des écolos à la base, qui se sont inscrits dans ce processus, qui ont fait des ateliers à terre sur du temps long, en prenant le temps. Et c'est un peu la même démarche que le travail parlementaire que je décrivais quand on fait une mission. C'est qu'en enquêtant, en faisant ce travail et tout, ben ils arrivent à des conclusions écolos, parce qu'en fait, quand on fait ce travail, on est obligé de se rendre compte qu'on vit sur Terre. C'est pas plus compliqué que ça. Alors ça prend un peu de temps, mais je vous invite tous ici à vous former. Il y a plein d'autres méthodes, hein. Il y a Où atterrir, mais il y a plein de gens qui essayent de faire ça, ce travail. Et en fait, si on fait tout ça chez nous, on arrivera à dépasser notre milieu écolo. Alors c'est facile, hein, il n'y a qu'à Faucon. Mais voilà, il y a des outils qui existent, il y a des outils qui sont développés. À nous de nous en saisir. Moi, j'essaye de le faire sur mon territoire. Pas sur mon territoire, hein. Sur ma circonscription, parce que territoire prend un autre sens quand on lit Bruno Latour. Et je vous invite à tous vous saisir de ces méthodes.
Et juste pour ajouter un mot par rapport à cette question qui me paraissait tout à fait fondamentale, bien sûr, j'aurais tendance à dire que eu égard à ce qu'on appelle de façon un peu rapide la génération climat, c'est-à-dire aujourd'hui une grande part de la jeunesse qui souffre d'éco-anxiété et tout un tas d'autres anxiétés par ailleurs, liées au contexte dans lequel on est. Mais je dirais, en complément, c'est-à-dire en symétrique de ce que vient de dire Lisa, que cette génération-là, elle a compris le sens et c'est son combat. Maintenant, ce qu'il lui faut, c'est des outils pour la construire. Et je dirais que quand on parle de République d'un côté et d'écologie de l'autre, il y en a qui rentrent par un biais et il y en a qui rentrent par l'autre. Et j'ai la faiblesse de penser que pour la jeune génération, il y a là aussi le ferment. Et je parlais de Marine Calmet. Quand on voit son travail pédagogique avec, et je vous invite à aller à sa réunion avec son association Wild Legal, où elle organise en fait des générations convaincues sur le fond, mais pour leur donner les armes juridiques pour faire évoluer le droit, c'est une autre façon de gagner et de faire avancer la bataille culturelle. Après, malheureusement, il n'y a pas de remède miracle. Il y avait encore une question, je crois, puis je pense qu'il faut qu'on laisse la salle, non ? Ouais.
Bonjour, merci, ça va être rapide. Vous avez fait donc un petit rappel de ce qui s'était passé au Chili avec cette assemblée constituante qui n'a pas fonctionné parce que le peuple chilien a décidé qu'il ne voulait pas de cette constitution si vertueuse que soit-elle, en gros. Hein. Et moi, j'avais une question par rapport à la Convention citoyenne pour le climat, qui en fait, à qui, quelque part, on lui a aussi posé la même question, une fois qu'elle avait bien travaillé, donc 150 personnes qui ont été finalement, dont on peut dire qu'on a gagné cette bataille culturelle, hein, puisqu'ils ont compris les enjeux, puisqu'ils ont effectivement réfléchi à tout cela, fait des propositions qui avaient quand même un sens par rapport aux enjeux, et à la fin, on leur dit, vous soumettez ça au peuple français, donc à référendum, ou au Parlement. Et bien, ils décident de remettre ça au Parlement. Pourquoi ? Alors qu'on sait que le Parlement, en fait, n'avait pas réussi à atteindre ce niveau de conscience, ce niveau culturel et ce niveau de décision.
Parce qu'on n'est pas dans une république écologique. Je ne sais pas combien de temps on peut rester, mais vraiment une seconde par question.
Il faut toujours un chiant à la fin. Madame Belluccio, quand vous parlez de ralentir, les travaux de Rachel Carson ont 60 ans. Même Lamarck a écrit des choses qui étaient déjà sur la diminution des ressources naturelles. Le rapport de Rome à 50 ans, l'extinction de la nature est renseignée aujourd'hui par des montagnes, des bibliothèques entières de rapports, d'études scientifiques, de publications. Il y a eu la commission parlementaire avec le professeur Bonmatin sur les pesticides et les néonicotinoïdes. Aujourd'hui, malheureusement, quand vous dites il faut prendre le temps de réfléchir, je suis un petit peu gêné vraiment par ça. Vous avez aujourd'hui les connaissances, les rapports, des aides parlementaires pour vous saisir de tous les travaux scientifiques. Aujourd'hui, il y a suffisamment de connaissances pour peut-être vous mettre en mouvement plus vite, mais je crois qu'il n'y a plus le temps du tout d'attendre. Hein. Moi, j'ai 45 ans. En une génération humaine, j'ai assisté à ce vortex d'extinction qu'on connaît aujourd'hui. On n'a plus le temps d'attendre du tout.
Du coup, j'ai envie de vous répondre presque directement, puisque je n'ai pas osé prendre la parole tout à l'heure, mais Lisa, tu as fait de la pub en fait pour la question Atterrir. J'hésite à prendre la parole parce que j'ai fait partie de l'équipe du projet pilote ou Atterrir avec Bruno Latour. Donc on a conçu des protocoles de travail et une méthodologie pour essayer de travailler dans le sens que Lisa le disait tout à l'heure. En fait, je pense que le problème, c'est pas le problème du temps. Là, c'est aussi un problème de méthodologie de travail et qu'en fait, le débat, les argumentations ne font rien bouger. Et que du coup, tant qu'on peut pas proposer une manière de travailler différente, en fait, à la fois l'urgence est là. Bien sûr, il y a tout un ensemble de connaissances qui existent, mais dont qu'une grande partie de la population ne s'approprie pas. Et voilà. Donc, il nous faut inventer différentes méthodes de travail. Donc, où Atterrir en est une. Et pour arriver aussi. Tête de pipe par tête de pipe, disait Bruno Latour, vous voyez, du coup, à faire bouger les choses. L'agriculteur dont parlait Lisa tout à l'heure, qui a fait ce projet, qui était dans le projet pilote ou Atterrir, il y avait plusieurs agriculteurs, était secrétaire départemental de la FNSEA. Oui. Et aujourd'hui, il veut faire des ateliers ou Atterrir avec ses pairs. Oui, ça s'est fait, oui, c'était à la fois lent et rapide. Ça s'est fait sur, en gros, l'espace d'une année. J'arrête là.
Eh bien,
là.
Voyez, on a déjà.
En tout cas, je suis à votre disposition si vous le souhaitez pour évidemment répondre à des questions autour de où atterrir.
On a déjà un élément de réponse avec cette intervention qui est une réponse d'une personne à une autre sans passer par la verticalité du face-à-face entre la tribune et la salle. Bon, il y a d'autres ateliers à 18h, alors bon. Enfin, je veux pas te couper la parole.
Bah, comme vous voulez. Moi, c'était pour une question concrète. C'était, enfin, pas pour une remarque concrète, mais pour moi, la République, c'est pour le peuple. Et j'ai pas l'impression qu'on réponde vraiment à cette question-là, en fait. C'est-à-dire que l'écologie, elle doit partir des gens. Elle doit pas partir de rapports qu'on va attendre, etc. Moi, je pense que la démocratie et que le peuple peut fournir des propositions. Et l'exemple du Chili, il est éclairant là-dessus. C'est-à-dire que les Mapuches, est-ce qu'ils demandaient un État plurinational ? Est-ce qu'on a vu un mouvement populaire massif des Mapuches au Chili pour un État plurinational ? Non, ils voulaient la fin du racisme, ils voulaient pouvoir se déplacer dans les métropoles et être proches et faire partie intègre de la nation. Mais on a des universitaires et des élites qui ont mis sur la scène cette question-là, et c'est ça qui a fait voter, c'est ça qui a créé la dissension, et les conservateurs ont été contre. Donc moi, la question que je me pose derrière ça, c'est est-ce que l'écologie, est-ce que finalement on peut mener la bataille culturelle ? Tu veux, on mène la bataille culturelle aux Mapuches pour leur expliquer qu'ils veulent un État plurinational. Bon, moi, j'attends de voir ce que ça va donner. La deuxième truc que ça entraîne, c'est que est-ce que nous, dans le territoire français et dans notre constitution qu'on voudrait créer éventuellement, et également dans les aspects écologiques, on peut faire l'économie, par exemple, de l'écoute des gilets jaunes. Est-ce qu'on peut faire l'économie de toutes ces écoutes-là, en fait ? Parce que moi, je n'ai pas l'impression, en fait, qu'en ce moment, le mouvement écologique, il part des désirs de la majorité des Français. J'ai l'impression qu'il crée des propositions, qu'il y a des experts qui nous proposent des choses, et qu'on attend l'acceptabilité par les gens. On attend que les gens acceptent des choses. Je pense que les choses, elles doivent partir des gens, que les gens, ils savent ce dont ils ont besoin, et qu'il faut aller dans ce sens-là.
Est-ce que les gens, ils savent ce dont ils ont besoin Non mais attends, en fait on vient pas du tout de faire une proposition ultra descendante. Moi ce que je dis, c'est que pour que les gens y bougent et pour qu'on mène cette bataille culturelle, pas qu'on aille leur expliquer ce qui est bon et pas bon pour eux, mais pour qu'on mène cette bataille culturelle et qu'on partage le souci de vivre dans la zone critique, il faut vivre des expériences. Il faut vivre et lire des rapports, c'est pas vivre une expérience.
J'y étais, alors.
Bon, merci pour cette petite piqûre de rappel. J'étais au manif Gilets jaunes, donc j'ai aucun problème à te répondre. Et si tu veux, on continue à discuter dehors. Voilà. Et merci beaucoup à toutes et tous pour votre attention.